Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour. Émission numéro 2 avec Daniel Vaniche. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Alors, Daniel, ingénieur polytechnicien, architecte, chairman de l'agence DVVD. On a fait une première interview très intéressante sur la réhabilitation lourde et sur un peu comment on fait pour lever les freins des maîtres d'ouvrage. Tu voulais nous parler de bâtiments emblématiques et quelque part de grosses réhabilitations là faites ces récemment dans des bâtiments Andro Parra, des grands architectes. Comment on fait pour se glisser dans le bâti d'architectes prestigieux? C'est pas un peu frustrant?
Alors, j'allais plutôt dire c'est facile.
Ah bon, d'accord.
Non, mais alors, prenons par exemple l'exemple, là on travaille actuellement sur la pyramide 14, la plus grosse pyramide d'Evry, d'Andro et Parra, de ce grand plan de l'époque. C'est un très beau bâtiment. Paradoxalement, le concours ne demandait pas à conserver l'image du bâtiment. Oui, oui. Bon, nous on a répondu en conservant sa brique, ses briques de toutes les couleurs, ses nez de plancher. Non, c'est pas frustrant pour répondre à la question. Ça fait plaisir de le réhabiliter. Ça fait plaisir de trouver le moyen de garder cette image de bâtiment et on est presque dans la restauration en fait garder les jardinières,
les jardinières,
ces rythmes là, etc. Et quand je disais c'est facile plus que c'est frustrant, c'est que ce bâtiment-là avait énormément de qualité, des trucs dont on rêve aujourd'hui, des terrasses pour chacun, des grands appartements, des doubles orientations, etc. Il avait beaucoup de qualité. Après, ce qui fait que ça n'est pas frustrant, pour répondre à la deuxième partie de la question, c'est que il y a des choses à améliorer. Et
Dont la thermie.
Dont la thermique. Et ça a été un gros enjeu d'ingénierie. C'est un projet il faut que je le dise parce qu'on est associé, qu'on partage avec Coda Architecte. L'enjeu était de garder l'image et de prouver qu'on arrivait à la bonne étiquette thermique.
Et d'améliorer le confort.
En gardant la brique et les nez, avec tout le monde qui nous disait « mais non, vous allez avoir des ponts thermiques, ça va pas marcher ». Mais il se trouve que le bâtiment était finalement suffisamment bien fait, en travaillant énormément sur les isolations, les menuiseries qui, elles, sont toutes changées, les terrasses qui... une isolation de terrasse mal faite ou sans isolation, c'est très mauvais. Donc en reprenant au max tous les autres critères, on est arrivé à garder l'image du bâtiment et à lui donner des fonctionnalités en plus, retravailler sur les socles. On travaille beaucoup avec la ville d'Evry sur les associations accueillies dans les socles, ouvrir les halls sur l'extérieur, ne pas avoir de grands couloirs, etc.
Donc ça veut dire que vous changez quand même l'image du socle.
Entièrement l'image du socle. Après, très respectueusement du bâtiment, mais en réouvrant et en ouvrant sur la ville. Il y a même des choses qui ont été construites en intermédiaire qu'on démolit pour revenir à l'image initiale. C'est certes complexe, mais c'est assez gratifiant et de voir ce beau bâtiment revivre et d'avoir l'impression de lui avoir ajouté quelque chose en fonctionnalité.
Et Bercy, parce que Bercy aussi, c'était un exemple incroyable, parce que quand je pense qu'on a failli démolir Bercy, non, tout de même, il y avait de quoi garder l'image.
L'image est assez incroyable de ces pelouses, mais si la réalisation de Bercy, on est encore plus loin dans le changement de fonctionnalité. On était sur une salle entièrement refermée sur elle-même, avec ces très belles pelouses, mais sans hall, sans tout ce qui fait une salle d'aujourd'hui. Et c'est là où justement on arrive en réhabilitation à... Si on rajoute autant de fonctionnalités à un bâtiment, on arrive à justifier le fait de le faire. On a entièrement repensé l'intérieur en gardant la majorité de la coque extérieure. On a même on a, je crois qu'on a rajouté 10 000 mètres carrés à l'intérieur du bâtiment dans la même enveloppe,
ah oui,
ou presque.
Waouh.
C'est quand même un bâtiment de 50, mmh, 60 000 mètres carrés, hein. C'est pas rien.
Enfin,
mais...
plus 10 000, c'est pas mal quand même.
Oui, mais et puis on a rajouté, tout le monde nous promettait qu'on baisserait la jauge de la salle. On a augmenté la jauge de la salle, mmh, en réhabilitant. Tout le monde nous disait que ça coûterait plus cher. C'est un très bon exemple par rapport au coût de réhabilitation. Le bâtiment neuf était estimé à 160, 180 millions d'euros. On a réhabilité en la moitié du temps à 110 millions d'euros.
Et le bâtiment neuf, hors démol, on est d'accord.
Non,
si
non,
il avait été, avec la démol.
Je ne parle, ouais, pas de bilan carbone.
Ouais, ouais.
Parle,
non, mais, je parle avec de, la démol quand même.
Oui,
ouais,
oui, avec la, mmh, démolition. Non, non, on parle de... On aurait été beaucoup,
d'accord,
plus cher et, ouais, et on a réussi à faire cette réhabilitation...
Donc une belle économie.
En 17 mois et, mmh, pas en 36. Mmh. En réouvrant au milieu parce qu'il y avait des... il fallait garder une certaine continuité, notamment pour le tennis, le tournoi de, ouais, de Bercy, mais pas que, d'autres tournois et d'autres concerts qui ont eu lieu au milieu de la réhabilitation. Donc c'est, là, pour le coup, il y a, tout le monde voit bien les qualités de la réhab et le fait qu'on arrive, on arrive vraiment à la fonctionnalité nécessaire. Parce que c'est très important. Il faut, si un maître d'ouvrage est frustré de ce qu'il, ouais, va avoir moins bien en fonctionnalité, en réhabilitation...
Oui, il est pas, ça ne le convainc pas.
Ça ne le convainc,
sûr,
pas. Et donc là, on a entièrement repensé et la salle et tous les services autour et fait que c'est encore à nouveau la plus belle salle de France.
Alors,
et l'une des plus belles d'Europe.
Ça, ce sont des exemples qui fonctionnent d'autant mieux qu'on est dans Paris intramuros, que c'est prestigieux, etc. Comment fait-on pour convaincre en banlieue, voilà, quand on est au fin fond du 9-4, du 9-3, sans évidemment discrimination aucune. Tout le monde sait que je travaille avec plaisir dans ces départements. Qu'est-ce qui fait que on incite parce qu'il y a une station de métro, parce qu'on est à tel endroit avec beaucoup de salariés, avec beaucoup d'entreprises, avec beaucoup de bâtiments de bureaux, mais qui ont été faits dans les années 80, parce que il y en a beaucoup à Évry, il y en a beaucoup dans d'autres endroits. Qu'est-ce qui fait qu'on a à convaincre les maîtres d'ouvrage privés, les propriétaires de bâtiments, de bureaux privés qui, bon, de toute façon, ils touchent les loyers, ils n'ont peut-être pas nécessairement intérêt à mettre en valeur leur patrimoine, ils ne sont peut-être pas convaincus. Est-ce qu'à un moment donné, l'agglo, le territoire, la puissance publique peut dire, écoutez, voilà, il y a nécessité refaire un ANRU de ce quartier bureau comme on fait un ANRU de logement. J'exagère un peu, évidemment, bon, mais...
Ça serait bien que ce soit le cas, mais je crois que malheureusement, la puissance publique ne peut pas beaucoup l'imposer au privé. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on y arrive? Je pense que c'est un mélange d'incitation publique, mais aussi, c'est le rôle, après, de notre rôle à nous tous, architectes, ingénieurs, thermiciens, spécialisés en environnement, d'arriver à convaincre qu'on va faire un plus beau bâtiment. Et en réhabilitant, si on parle de ces bâtiments de bureaux des années 80, par exemple, on peut complètement changer l'image, et pas que l'image. L'image, la fonctionnalité, la thermique, les consommations, parce qu'il faut toujours donner une petite carotte,
ouais,
pour dire,
sûr,
regardez, vous allez
ça,
consommer moins.
Oui, mais celui qui consomme, c'est le locataire, hein, c'est pas le propriétaire. Donc, à la limite, bon...
Oui, mais ça... Bon, le propriétaire sait quand même qu'à la fin, ses loyers vont...
Oui, il faut être concurrentiel.
Vont baisser, ouais, et qu'il doit rester, ouais, concurrentiel. Donc, donc, c'est un mélange de tout ça. C'est, et je pense qu'on arrive à, aujourd'hui, dans des réhabilitations, à donner des images et des ambiances des images de bâtiments et des ambiances de travail qui font basculer vers ça. Enfin, j'espère.
Alors, mais ça, c'est un bâtiment parmi d'autres. Et quand on est à une sortie de métro, mais je donnerai pas le lieu, mais enfin, je pense vraiment à un endroit précis où il y a de part et d'autre de la sortie de métro, d'un côté trois bâtiments, de l'autre côté trois bâtiments des années 80 en carrelage blanc immonde, avec un rez-de-chaussée qui veut rien dire, mais des bâtiments qui sont un peu beaucoup, enfin, obsolètes évidemment, certains vides, certains quand même loués parce qu'on est au pied du métro et qu'il y a beaucoup de salariés. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive à entraîner, c'est peut-être dans l'illusion absolue, mais à entraîner ces maîtres d'ouvrage qui sont différents, la collectivité, à dire, bah tiens, voilà, là, il faut transformer.
Ouais, par l'exemple, je pense. L'exemple, tu parles, il y en a qui sont vides là-dedans. Ben, peut-être que celui qui est vide, en faisant une réhabilitation exemplaire, ça incite les autres. Je vois pas d'autres moyens. Mais j'espère, en tout cas, dans les discours, tous nos maîtres d'ouvrage privés parlent de leur charte environnementale, leur envie de le faire. Donc,
espérons.
Non, mais ils sont en train d'y aller quand même. Moi, je pense qu'ils sont quand même en train d'y aller.
Après, il y a le coût des matériaux, qui est quand même un vrai...
On arrive aujourd'hui à montrer qu'on réhabilite moins cher que neuf. Quand même. Malgré tout ce qu'on dit que ça coûte plus cher et autres, on arrive à réhabiliter de ces bâtiments-là et dans des délais aussi plus courts que la construction du neuf. Donc, incitons autant qu'on peut, soit par la qualité de ce qu'on propose, soit par les équipements qu'il va y avoir autour qui vont donner envie d'améliorer.
L'espace public rénové.
L'espace public autour d'y aller. Soyons quand même un peu optimistes.
oui, non, mais je pense que c'est d'autant plus important que faire la ville sur la ville et redonner des qualités intrinsèques, parce que mine de rien, ce béton, il a été fait, il a été produit, il a de toute façon utilisé de l'eau et du sable, et il n'y a aucune raison de s'en passer.
Et souvent, quand on réhabilite des bâtiments des années 60, 70, 80, on trouve des très bonnes qualités de construction. Contrairement à ce que l'on peut dire, on disait qu'après-guerre, on construisait mal et autres. On construisait, en tout cas dans ces années-là, on construisait plutôt très bien. Et on a de très belles structures qui sont très saines.
Parfois un peu surdimensionnées.
Souvent surdimensionnées, mais il n'empêche, on n'aime pas les structures surdimensionnées, mais non. Il n'empêche que... Ouais. Ça permet qu'elles tiennent et qu'elles fonctionnent bien, même pour d'autres usages. Même, donc, c'est, voyons là encore la qualité.
C'était une émission de plus sur la réhabilitation, avec peut-être justement ce mot d'essayer d'inciter les maîtres d'ouvrage, mais peut-être aussi de faire un petit peu plus de communication sur la réhabilitation, puisque c'est pas... Ça a toujours été un petit peu le parent pauvre dans les revues d'archi, dans les expos.
C'est en train de changer, non ? C'est en train de changer.
Pas encore complètement. Bon. Nous en reparlerons. Merci, Daniel.
Merci.
Au revoir, chers auditeurs. À bientôt sur nos antennes.
Conversations urbaines et architecturales. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.